auditeurs, chères auditrices de Mets de Résistance Radio Galère 88.4, je vous souhaite, je suis contente de vous retrouver comme tous les lundis soirs, et j'ai décidé aujourd'hui de parler du Ku Klux Klan. J'ai lu un livre récemment qui s'appelle Le Ku Klux Klan de Farid Hammer aux éditions Pluriel, que j'ai trouvé très intéressant. Il relate toute l'histoire du Ku Klux Klan, et quand on le lit, on se rend compte que dans le monde aujourd'hui, c'est un petit peu cette obédience-là qui commande, ou du moins qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pas bien parce que le Ku Klux Klan est encore présent. Donc je prends le chapitre 1 du livre. On nous dit que les origines du nom Ku Klux Klan sont longtemps restées mystérieuses. Négligeant des sources de première main, les chroniqueurs ont fourni durant des générations les explications les plus fantaisistes. Pour certains, le nom de la société secrète n'aurait été que l'onomatopée du claquement métallique produit par le verrouillage d'un fusil à répétition. Pour d'autres, il proviendrait de la déformation de Kloklets, chef légendaire de la tribu des Catawba, dont le fantôme, d'après la tradition orale, aurait jadis rôdé dans les bois de l'Alabama et de la Géorgie pour terroriser les esclaves marrons. On a également prétendu que le mot latin « lux », qui signifie « lumière », aurait servi de support linguistique et renverrait à la pratique d'incendier des croix lors des cérémonies nocturnes. Enfin, une autre explication a prévalu selon laquelle Ku Klux Klan n'aurait en fait aucune signification et qu'il n'aurait été qu'une feinte pour masquer le sens de ses initiales. KKK voudrait ainsi dire kill, 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 tuer, tuer, tuer. Aucune de ces interprétations n'est exacte, d'après l'auteur. On doit à l'un des fondateurs du clan, John C. Lester, un récit détaillé de l'acte de fondation de l'organisation. Le dimanche 6 mai 1866, la nuit vient de tomber sur la petite ville de Pulaski, chef-lieu du comté de Gill, dans le Tennessee méridional. Tandis qu'une légère brise balaye les paysages boisés et vallonnés de la contrée, un clair de lune particulièrement scintillant vient bientôt illuminer le ciel. En milieu de soirée, les rues de la localité sont désertes. Rien de surprenant ce jour de grâce. Et pourtant, quelques ombres se faufilent de ci, de là, bien décidées à ne pas attirer l'attention. Prenant 1000 précautions, 5 individus s'approchent du cabinet juridique de Thomas M. Jones, l'un des membres les plus éminents du barreau de l'État. La porte ne tarde pas à s'entrouvrir. La réunion secrète à laquelle ils ont été conviés peut enfin commencer. Ce soir-là, les participants sont en comité réduit, ils ne sont que 6. En l'absence de son père, Calvin Jones a invité 5 de ses compagnons à se joindre à lui pour mettre au point un projet envisagé depuis le Noël précédent. L'objet de leur réunion est de fonder les statuts d'une société secrète, d'un cercle privé et restreint, calqué sur le modèle des fraternités étudiantes. S'ils ont l'intention d'entourer leur association de mystère, les 6 hommes n'ont en revanche rien à se cacher les uns aux autres. Natifs des environs de Pulaski, ces jeunes adultes se connaissent depuis leur plus tendre enfance. D'origine écossaise, ils sont tous issus de bonnes familles, ont chacun reçu une éducation soignée dans des établissements supérieurs et coulent ensemble des jours paisibles dans l'oisiveté. Mais un autre lien vaut davantage à leurs yeux. Les Tennessiens sont d'anciens frères d'armes. Pendant presque 4 ans, ils ont porté l'uniforme gris de la Confédération au cours de la guerre de sécession qui a opposé les États du Nord à ceux du Sud. Au moment de l'appel aux armes, la petite bande s'est jetée dans l'action avec ardeur. James Crow, John Lester, Calvin Jones et John Kennedy avaient gagné au feu leur galon d'officier. Ce dernier avait été 3 fois blessé au combat. À des grades inférieurs, Frank McCord et Richard Reed avaient eux aussi participé aux plus sanglantes batailles du conflit. Les 6 soldats en haillons avaient été démobilisés après la reddition du général Lee en avril 1865. Désœuvrés, ils n'avaient cessé depuis leur retour à la vie civile d'égrener leurs exploits, de rendre hommage à leurs camarades tombés au champ d'honneur et de cultiver le mythe de la cause perdue. Mais en cette soirée du printemps 1866, les Pulaskiens avaient une toute autre idée en se réunissant. À peine la réunion a-t-elle commencé que la conversation s'anime entre les 6 hommes. Leur première initiative est de scinder le groupe en deux comités. Tandis que l'un choisirait un nom approprié, l'autre réfléchirait aux règlements, titres et activités de la nouvelle organisation. Après de courtes délibérations, chacun rend ses conclusions. Dans l'enthousiasme général, les débats se cristallisent d'abord autour de l'appellation à donner à la société secrète. L'idée est de trouver un nom qui serait à la fois original, facile à retenir et qui exciterait la curiosité du public. En un mot, le mystère devrait rester entier. Après avoir écarté de nombreuses propositions mal adaptées ou trop classiques, la décision est prise de recourir au vocable grec. Ancien élève de l'université du Kentucky, John Kennedy lance alors le mot « kuklos » qui signifie « cercle » ou « anneau », sans doute en référence au Kuklos Adelphon, cercle des frères, une célèbre fraternité étudiante fondée en Caroline du Nord en 1812. Les esprits de ses camarades s'enflamment en raison des possibilités allitératives du terme et de la part de mysticisme qu'il contient. La situation se décante lorsque James Crowe émet l'idée de scinder Kuklos en deux, de remplacer le O par un U pour créer une assonance, puis de changer la lettre finale en X de manière à obtenir Kuklux. John Lester apporte lui-même la touche finale. Ayant rappelé que tous les membres fondateurs sont d'origine écossaise, il suggère d'ajouter le mot « clan », mais que l'on écrirait « clan » avec un « k » pour renforcer l'allitération. La combinaison est plébiscitée à l'unanimité. Le Ku Klux Klan vient de naître. La suite des débats suscite autant d'excitation sinon davantage. Il s'agit en effet de définir les cadres, les statuts et les objectifs de la confrérie. Sur ce dernier point, les Pulaskiens n'ont aucun mal à se mettre d'accord. Le Ku Klux Klan se donne pour but de divertir ses membres et de resserrer les liens de camaraderie qui les unissent par un esprit de caste et un rituel secret. Un tel dessein ne saurait surprendre. Depuis qu'ils ont regagné leur foyer, les 6 anciens soldats de la Confédération s'ennuient ferme et cherchent un dérivatif à la vie monotone qu'ils mènent aux confins du Tennessee. Rongés par l'inactivité, ils se rattachent aux souvenirs brûlants de leur dévouement pour la cause du Sud. Aussi aspirent-ils tout autant à rompre l'ennui qu'à trouver une nouvelle distraction susceptible de les délivrer du goût amer que leur a laissé la défaite. Pour atteindre ce but, les compères fixent le programme des réjouissances. Ils conviennent d'échanger des facéties en tout genre, de monter des canulars et de procéder à d'étranges mascarades nocturnes. Eux-mêmes se parent de titres fantaisistes et impressionnants. Frank McCord est le grand cyclope du Ku Klux Klan, John Kennedy le grand mage et James Crowe le grand turc. Leurs compagnons ne sont pas en reste. Calvin Jones et John Lester sont élevés au rang de faucons de la nuit, tandis que Richard Reed reçoit celui de licteur. La petite bande, quant à elle, porte le surnom des 6 immortels. Ce n'est pas tout. Pour entourer le cercle d'un voile plus épais de mystère, 2 décisions importantes sont prises. D'abord, celle de ne pas solliciter de candidature, le secret des initiés devant permettre à l'organisation et à ses membres de garder l'anonymat et d'éviter toute poursuite ou récupération. Seuls quelques amis de confiance, sondés au préalable, pourraient se joindre à eux s'ils le désiraient. Encore faudrait-il agir avec prudence pour que l'état d'esprit qui a présidé à la naissance du groupe ne soit jamais trahi. En outre, sur une idée de Crowe, les Tennessiens s'entendent pour revêtir des déguisements lors de leurs réunions et de leurs déplacements. Si l'habillement n'est pas encore défini, l'intention est claire. Des tenues originales et uniformes, agrémentées de broderies et de divers signes distinctifs, doivent renforcer le sentiment d'appartenance à une société quasi fraternelle. Des masques doivent préserver l'identité de chacun durant les apparitions publiques. Bien qu'il constitue une société secrète, le Ku Klux Klan n'entend pas en effet évoluer en vase clos. Pour imposer son style et accroître sa renommée, il lui est impératif de garder une certaine visibilité aux yeux du voisinage. Le mystère ne sera que plus grand. Les 6 immortels passent bientôt à l'action. Ils défilent avec éclat dans la rue principale de leur ville Pulaski et quelques jours suffisent pour que tout soit planifié. Lors de leur première sortie, ils ont eu un gros succès. Sous les regards ébahis des passants, ces étranges silhouettes enveloppées de longues robes, juchées sur des chevaux tout caparaçonnés de blanc, défile fièrement à travers la ville, une torche à la main, régalant la foule de gestes saugrenus, d'onomatopées, de formules cabalistiques. Des feux d'artifice éclatent au-dessus du cortège alors qu'il enchaîne marche et contre-marche en file indienne. Il n'en faut pas plus pour que le public soit en émoi. De mémoire d'homme, on n'avait jamais vu un tel spectacle à Pulaski. Le Ku Klux Klan va bientôt prendre un essor imprévu dans la région alentour. Ils ont d'abord fait un coup d'éclat. Leur canular, au début ils ont commencé par s'amuser, puis après leur canular ont pris pour cible la population de couleur récemment affranchie et contre laquelle les sudistes tournent leur rage depuis la fin des hostilités. Très vite, les membres de la société secrète ont compris que leur apparence fantomatique épouvantait nombre de personnes de couleur superstitieux et qu'ils pouvaient exploiter cette peur pour ramener les anciens esclaves à une plus convenable humilité. Le bruit court que ces cavaliers surgissent hors de la nuit sont les fantômes des soldats confédérés morts au combat, qu'ils ont vendu leur âme au diable dans l'au-delà et que leur retour sur terre annonce l'apocalypse. Trompés par de vulgaires artifices, d'autres témoins assurent que ces démons sont des géants, que plusieurs d'entre eux n'ont pas de tête et qu'ils peuvent boire d'un trait une barrique d'eau. Victimes de la même méprise, les plus terrifiés jurent avoir entendu leurs visiteurs prétendre n'avoir rien mangé depuis la bataille de Silo, vivre en enfer et avoir fait deux fois le tour du monde depuis l'heure du dîner. Fait notable, malgré la crainte qu'elle inspire à la communauté noire, la colonne infernale ne se livre pour l'instant à aucune exaction. Mais bientôt, le Ku Klux Klan va prendre un essor imprévu dans la région alentour. La société secrète a fait des émules. Et bien qu'elle s'adonne à ce qui semble être des enfantillages, elle suscite un intérêt sans cesse renouvelé. La marque du KKK exerce l'attrait irrésistible d'une formule magique. Avec leurs aubes blanches et leurs capuchons pointus, les cavaliers masqués ont l'éclat d'un ordre de chevalerie. Les récits de leur équipée ont fait les héros du jour. Les habitants de Pulaski ne se lassent pas d'assister à leur parade et de s'interroger sur leur identité. Séduits par des chevauchées nocturnes, les jeunes gens des environs sont nombreux à vouloir entrer en contact avec le groupe des six immortels. Suivant l'acte fondateur de l'organisation, la sélection est drastique. Les postulants sont abordés avec une extrême prudence. À l'issue d'un interrogatoire serré, seuls ceux qui ont paru dignes de confiance prêtent le serment d'adhésion. Les autres sont reconduits, les yeux bandés, jusqu'aux limites de la ville. La liste des candidatures s'allonge lorsque Lawrence Davis, citoyen influent d'Athens, une petite ville voisine de l'Alabama, obtient une entrevue secrète avec le comité directeur par l'entremise de son vieil ami John Lester, l'un des deux faucons de la nuit. Sans détour, cet ancien officier de l'armée confédérée demande l'autorisation de mettre en place une seconde antenne du Ku Klux Klan dans son état de résidence, où la population de couleur, assure-t-il, ne se sent plus d'aise depuis son émancipation. Après une courte délibération, les membres fondateurs y consentent, mais à condition toutefois d'exercer un pouvoir de contrôle. En sa qualité de grand cyclope, Frank McCord ferait prêter serment aux nouveaux adhérents, qui devront être au préalable rigoureusement sélectionnés et leur expliquerait les principes du clan. La décision est capitale car elle ouvre la voie à un développement sans précédent de la société secrète. Au fil des mois, en effet, des dizaines de groupes locaux du Vieux Sud, avec ou sans l'aval du comité de Pulaski, se réclament du Ku Klux Klan, lui empruntant son nom, ses titres, ses rites et son uniforme caractéristique. Les cavaliers fantômes essaiment du temps de Tennessee au Texas, en passant par l'Alabama, la Géorgie et le Mississippi. Mais les espoirs des six immortels de contrôler l'ensemble des fidèles sont vite déçus. L'étendue du terrain d'action, les défauts d'organisation, les luttes d'influence et l'indiscipline de certains membres distendent les liens avec le clan primitif. Les querelles de personnes n'arrangent pas les choses. Par contre, ce qui les unit, c'est le fait de faire du mal à la population de couleur. Pour eux, la libération des esclaves impose aux Klansmen le devoir de préserver l'ancien ordre social en recourant à des actes de brutalité. Aggravée par les affres de l'occupation militaire, l'humiliation de la défaite accélère cette évolution. le mouvement se trouve pris dans l'engrenage de la violence. Bénéficiant de la connivence des habitants, des hommes encagoulés organisent des expéditions punitives et perpètrent des crimes au nom du principe de la suprématie blanche. Après moins d'un an d'existence, le Ku Klux Klan est en passe de devenir l'armée de résistance du Sud. Le développement de l'organisation renvoie aux années troublées de la Reconstruction. Depuis la fin de la guerre civile, la colère gronde dans les États du Sud, ruinés, avilis et soumis à la loi des vainqueurs. D'abord parce que, à l'heure des bilans, le coût humain des 4 années de lutte fratricide pèse lourd. Environ 260 000 rebelles ont payé de leur vie la sécession des 11 États esclavagistes, soit près d'un combattant sur 4. Le nombre de blessés, de mutilés et d'invalides est plus important encore. Le Sud a perdu 1/5 de sa population active. Les dégâts matériels, quant à eux, témoignent autant de l'acharnement des combats que de la redoutable efficacité du matériel de guerre moderne. La marche des armées et l'intensité des batailles ont réduit les États rebelles en cendres. Si toutes les régions n'ont pas été dévastées au même degré, on ne compte plus, de la Virginie au Texas, les villes et les campagnes ravagées, les plantations incendiées et les propriétés pillées. Les routes sont encombrées de vagabonds sans le sou, d'esclaves libérés attendant d'être fixés sur leur sort et de bandes hors la loi qui mettent en coupe réglée les espaces laissés sans autorité. Les récoltes ayant été saccagées et le bétail dispersé ou abattu, la disette sévit. Accablée par les réquisitions et privée de sa main-d'œuvre servile, la population doit lutter pour assurer sa sécurité et ses propres moyens de subsistance. En un mot, le Sud est dans un état de chaos total. La Reconstruction a creusé profondément le fossé entre le Nord et le Sud. Certes, dès décembre 1863, alors que l'issue du conflit ne faisait plus aucun doute, le président Lincoln avait tracé une ligne de conduite modérée pour réintégrer les États confédérés dans l'Union. Il avait manifesté l'intention d'accorder le pardon immédiat à tous ceux, excepté les principaux dirigeants rebelles, qui accepteraient de prononcer un serment d'allégeance au drapeau fédéral, de soutenir les sudistes qui souhaiteraient former des gouvernements loyaux et de mettre en place des gouverneurs militaires pour maintenir la tranquillité publique. Mais le Congrès passait alors entre les mains des extrémistes du Parti républicain, avait refusé de s'aligner sur les positions présidentielles, jugées trop bienveillantes à l'égard des traîtres. Le bras de fer qui s'était aussitôt engagé entre l'exécutif et le législatif avait repris de plus belle après la chute de la Confédération. Le 14 avril 1865, soit 5 jours après la capitulation d'Appomattox, Lincoln était assassiné dans un théâtre de Washington par un acteur acquis à la cause sudiste. La tragique disparition de celui qui, par son charisme, était le seul capable d'imposer ses vues à l'ensemble de la nation, le seul susceptible de soutenir les extrémismes, avait en réalité privé le Sud d'une paix sans vengeance. Le seul susceptible de contenir les extrémismes avait en réalité privé le Sud d'une paix sans vengeance. La lutte politique n'avait pas tardé à s'envenimer. Le vice-président Andrew Johnson, qui avait accédé à la magistrature suprême, avait annoncé sa volonté de suivre la politique de modération de son successeur. En vain. Mal préparé à sa tâche, ce politicien du Tennessee, rallié à l'Union et affilié au Parti démocrate, s'était immédiatement trouvé en butte à l'hostilité des républicains radicaux. Au Congrès, ceux-ci, sous l'impulsion de Thaddeus Stevens, président de la commission budgétaire du Sénat, avaient exprimé leur désir d'utiliser la manière forte, c'est-à-dire de traiter les États du Sud en provinces conquises et de punir les rebelles. Aussi, lorsque, le 18 décembre 1865, le 13e amendement portant abolition de l'esclavage avait été intégré à la Constitution, ils avaient refusé de s'arrêter là. Leurs orateurs s'étaient succédés à la tribune pour réclamer que la totalité des droits civiques soit donnée aux anciens esclaves, moins par esprit philanthropique que par calcul politique. Avant même la fin des combats, ils avaient nourri l'espoir de se constituer un électorat suffisamment massif dans le Sud pour permettre au Parti républicain de s'y implanter. Or, à peine les instances du gouvernement rebelle avaient-elles disparu que des nostalgiques de la Confédération avaient accédé à des fonctions publiques et promulgué des codes noirs pour maintenir la population de couleur dans une position inférieure. Des émeutes raciales avaient déjà éclaté à Memphis et à la Nouvelle-Orléans, causant la mort de dizaines d'affranchis. Dénonçant la politique laxiste de Johnson, les radicaux avaient brisé à 2 reprises le veto présidentiel. D'abord, en février 1866, les congressistes avaient renforcé les pouvoirs du Bureau des Affranchis, créé en mars 1865 pour aider les esclaves émancipés à s'intégrer, en lui donnant la faculté de traduire devant des tribunaux militaires toute personne accusée de priver les Noirs de leurs droits. 2 mois plus tard, ils avaient fait adopter par la Constitution le 14e amendement garantissant à la population de couleur l'égalité politique. Le respect de cette loi, qui ne sera approuvée par la Cour suprême que le 28 juillet 1868, avait été posé aux anciens États rebelles comme la condition sine qua non d'une réintégration dans l'Union. Dès lors, la rupture était consommée à Washington, d'autant que les élections législatives de novembre 1866 sont un véritable triomphe pour les radicaux. Dépassé par les événements, le président Johnson avait définitivement perdu le contrôle de la Reconstruction. C'est dans ce contexte politique extrêmement tendu que le sceptre de la revanche surgit dans le Sud. Si nombre d'anciens confédérés n'acceptent pas la défaite, ressassent les occasions manquées et entretiennent volontiers le mythe de la cause perdue, il n'est pas question pour eux de reprendre les armes. La déroute des troupes rebelles a été trop complète, le pays trop ravagé, l'expérience de la guerre trop traumatisante pour espérer revivre une nouvelle épopée militaire. La Confédération n'est pas prête de renaître de ses cendres. D'ailleurs, pour faire régner l'ordre, le Congrès vote une série de mesures draconiennes. À compter du 2 mars 1867, le Sud est divisé en 5 districts militaires dans lesquels est appliquée la loi martiale. Les troupes fédérales quadrillent le territoire avec une vigilance accrue. En outre, tous les États dissidents sont sommés de tenir pour l'automne suivant des assemblées constituantes élues au suffrage universel masculin en application des 13e et 14e amendements pour voter de nouvelles constitutions reconnaissant les nouveaux droits des Noirs. Les autorités locales restant volontairement passives, le Congrès en appelle aux généraux pour qu'ils établissent les listes électorales et écartent les anciens dignitaires de la sécession. Ainsi, le Parti républicain remporte-t-il un franc succès et prend-il racine dans le Sud au début de l'année 1868 ? Bien que leur nombre ait été surévalué, des affranchis tiennent désormais une place dans le système politique. Les sudistes crient au scandale. Ils estiment que les gouvernements radicaux qui se sont formés dans le Sud n'ont aucune légitimité et que les nouveaux amendements constituent un grave empiétement sur les droits des États. La question raciale exacerbe les passions. 4 millions d'esclaves, convient-il de rappeler, ont été émancipés à la suite du succès des troupes fédérales. Pour les anciens propriétaires, la perte en capital est considérable. Leur colère n'a d'égal que leur inquiétude. Que deviendront en effet les Noirs libres dans les prochains temps ? Daigneront-ils continuer à travailler dans les plantations de leur ancien maître ? Se laisseront-ils aller à la joie de la délivrance et refuseront-ils tout effort ? S'établiront-ils à leur propre compte sur des terres que leur attribuera le gouvernement ? Ou bien chercheront-ils à se venger des humiliations passées ? Autant de questions qui suscitent parmi les Blancs une angoisse que le racisme accroît encore. Ainsi, au nom d'un ordre prétendument naturel, les plus militants exaltent le principe de la suprématie de la race blanche. Dans certains États comme la Louisiane, le Mississippi et la Caroline du Sud, des ligues blanches, White Leagues, se sont formées pour organiser une levée de boucliers. Quelques-unes, parmi lesquelles les Fils du Sud, les Chevaliers du Camélia Blanc, la Fraternité Blanche et les Chevaliers de la Croix Noire, ont entrepris de recourir à l'action clandestine pour dissuader les Noirs d'exercer leurs droits et d'accéder à l'égalité. Les Blancs du Sud ont d'autres sujets d'inquiétude. Ils prétendent que des nuées de profiteurs se sont abattues sur la région avec l'objectif avoué de faire fortune sur les dépouilles de la Confédération. Sujet de l'opprobre général, les Carpetbaggers, ces nordistes venus s'établir dans le Sud après la guerre, et les Scalawags, ces sudistes unionistes ralliés opportunément au Parti républicain, forment la base des nouveaux gouvernements locaux. La propagande les décrit sous les traits d'être cupides, dépourvus de scrupules et prêts à faire argent de tout, ne cherchant qu'à se maintenir au pouvoir en manipulant l'électorat noir. Aussi sont-ils taxés d'oppression, d'injustice et d'extravagance financière. Si le tableau est sans doute exagéré, le point de mire n'en est pas moins défini. Les Noirs, les Yankees et les traîtres, voilà les ennemis sur lesquels les cavaliers du Ku Klux Klan vont bientôt jeter l'anathème. À leurs yeux, L'heure de la réconciliation n'a pas sonné. Le Sud a besoin d'une revanche posthume. Qu'importent les moyens. En mars 1867, la nouvelle loi martiale crée une onde de choc dans le Sud. La politique de reconstruction inaugurée par le Congrès radical préfigure aux yeux des conservateurs une exploitation en règle des richesses locales. Le Ku Klux Klan ne tarde pas à entrer dans l'arène. À l'instigation des Six Immortels, les membres de l'organisation sont invités à élire des représentants pour assister à une convention secrète prévue à Nashville dans le courant du mois d'avril. La réunion doit servir à structurer le mouvement, à le doter de cadres et de statuts, pour qu'il soit en mesure d'incarner l'esprit de revanche des sudistes. Il s'agit aussi d'éviter qu'ils ne s'émiettent en bandes rivales, agissant pour leur propre compte. Cet espoir de fusion n'est pas pris à la légère. Porté dans différents États, le message en appelle à l'union sacrée des vétérans de l'armée confédérée. La convention se déroule dans la salle numéro 10 du Maxwell House, un hôtel tout juste rénové de Nashville. Comme prévu, elle se tient à huis clos à l'abri des regards indiscrets. Et pour cause. En hommage à la Confédération, la pièce est décorée de drapeaux sécessionnistes. Des individus recherchés pour meurtre s'y trouvent. Pour montrer les liens fraternels qui les unissent, les délégués ont revêtu leurs longues robes blanches ornementées d'un signe écarlate. Mieux encore, pour ne pas éveiller de susceptibilité, ils ont relevé d'un commun accord la pointe de leur cagoule, de manière à se parler à visage découvert. Les débats sont particulièrement houleux. Dans un climat survolté, les représentants fustigent la politique du gouvernement fédéral. Ils répètent qu'elle vise à dilapider les fonds publics et à humilier les vaincus. « Dans un pays encore sous les décombres, assure-t-il, l'occupation militaire n'a pas lieu d'être. Elle est une insulte jetée à la face des Blancs du Sud, d'autant qu'elle est en partie assurée par des unités noires. Une émancipation aussi brusquée, ajoute-t-il, est pleine de dangers. La libération des esclaves crée les conditions favorables au renouvellement des massacres de Saint-Domingue. En pareille hypothèse, les Carpetbaggers et les Scalawags s'en laveraient les mains. Ils n'auraient plus rien à redouter pour accomplir leur sombre destin. » Et donc, c'est ce jour-là que, plutôt que de se soumettre à la vindicte des vainqueurs, la décision est prise à l'unanimité d'organiser le Ku Klux Klan en groupe paramilitaire. Les délégués insistent ensuite sur les questions d'unité d'action concertée, sur les limites à ne pas dépasser et la nécessité de confier l'autorité à des hommes respectables. La convention charge George J. Gordon, un bouillon avocat de Pulaski qui s'était hissé jusqu'au grade de général dans l'armée du Sud, de rédiger une ordonnance, c'est-à-dire une proclamation énonçant les principes fondamentaux que l'organisation devait suivre. Le texte est très bref, il précise juste que le Ku Klux Klan se donne pour but de protéger les faibles et les innocents et de venir en aide aux victimes des procédés injustes et aux opprimés, de secourir les malheureux, en particulier les veuves et les orphelins des soldats confédérés. La société secrète s'engage à soutenir et à défendre la Constitution des États-Unis et à veiller à l'exécution des lois constitutionnelles ainsi qu'à protéger les citoyens contre l'invasion, les mainmises illégales et les procès devant d'autres que leurs pairs, en conformité avec les lois du pays. On voit bien donc que tout le monde connaît le Ku Klux Klan et connaît les exactions qui ont été commises contre les populations de couleur. On voit bien, en lisant cette introduction du livre de Farida Meur, le Ku Klux Klan, qui est aux éditions plurielles, en livre de poche, qu'en fait, le Ku Klux Klan est la résultante de la victoire du Nord sur le Sud pendant la guerre de sécession. Et que donc le Sud n'a pas accepté, les populations blanches du moins, n'ont pas accepté la défaite et qu'ils cherchent à se venger. Donc au départ, il n'est pas du tout question des populations de couleur, c'est pas eux qui sont en cause, c'est une affaire qui est principalement une affaire entre blancs. On verra plus tard que les gens de couleur vont subir de graves exactions et de manquements aux droits de l'homme de la part du Ku Klux Klan, et ce pendant très longtemps, mais qu'ils sont les principales victimes, puisqu'en fait, ils sont en quelque sorte la victime expiatoire de cette défaite du Sud contre le Nord. En effet, l'Amérique estime les conventionnels, donc ceux qui ont fait partie de cette fameuse convention du Ku Klux Klan, qui dresse toutes les bases de l'organisation de la future organisation, que leur objectif principal est le maintien de la suprématie de la race blanche, qui serait douée, par la volonté du Créateur, d'une supériorité évidente sur toutes les autres, et qu'aucune loi humaine ne peut retirer de manière permanente. Pour eux, l'Amérique a été fondée par et pour la race blanche, et tout effort pour céder ce privilège à la race noire est une violation caractérisée de la Constitution et de la volonté divine. L'égalité politique et sociale des anciens esclaves doit être à jamais exclue pour eux, car elle conduirait à l'éclosion d'une société multiraciale faite de bâtards et de dégénérés. En somme, tout en entendant être le recours et la protection des sudistes contre l'arbitraire et la violence des radicaux, le clan se fait un devoir sacré de préserver la pureté du sang blanc. Le terrain racial, voilà son véritable cheval de bataille. L'organisation va dès lors se doter de nouvelles structures, des règlements, des rites d'intronisation, les questions à poser aux postulants sont rédigées et un organigramme est formé avec des titres ésotériques. Animé d'une haine farouche envers les unionistes et les noirs, le Ku Klux Klan va désormais tuer. Et donc, il se lance dans des épopées, dans des raids contre les populations noires. Je vais lire une partie du livre qui est assez dure à écouter. La légende noire du Ku Klux Klan peut commencer. En nombre sans cesse croissant, les cavaliers masqués se livrent à une terreur aveugle, entretenant un climat d'extrême violence. Ceux-ci ne se bornent pas à proférer des menaces, à barrer l'accès aux urnes, à confisquer des armes et à incendier les propriétés de leurs victimes. Ils n'hésitent pas à recourir au châtiment physique. Choisis au hasard, à la suite d'un différend ou sur dénonciation, des milliers de noirs, de carpetbaggers et de scalawags sont surpris dans les bois ou tirés de leur lit en pleine nuit. Au mieux, ils sont roués de coups, enduits de goudron, fouettés et traînés au sol. D'autres sont marqués au fer rouge, ont le crâne rasé, les membres brisés. On signale aussi quelques cas d'émasculation. Encore ne s'agit-il que de ceux qui ont gardé la vie sauve. Dans bien des cas, les visiteurs nocturnes se déplacent avec l'intention bien arrêtée de tuer les profiteurs, les traîtres et les inférieurs. De fait, la justice expéditive des Klansmen franchit les limites de l'horreur. Des hommes, des femmes, des enfants sont abattus sans sommation ou pendus aux arbres. Certains assassinats sont particulièrement barbares. Frappés de folie meurtrière, les bourreaux se livrent à l'occasion à des tortures sadiques et assouvissent leur désir de vengeance en pratiquant des éventrations, des décapitations, des étranglements, des écartèlements par des chevaux et des crémations sur des bûchers ou dans des chaudières à sucre. Le clan ne recule devant rien pour semer l'effroi et perpétuer l'ancien ordre social. Le recours à la violence serait nécessaire, d'après eux, pour punir les anciens esclaves de leur conduite insolente et chasser les blancs qui, au mépris des arrêts de la Providence, leur donnent les moyens de s'élever, en particulier les politiciens et les instituteurs. À Athènes, en Géorgie, un noir est passé à tabac pour être monté à cheval en compagnie d'une institutrice blanche récemment arrivée du Nord. La jeune femme, elle, est sommée de quitter le comté dans les 48 heures sous peine de représailles. Le 4 juillet 1868, à Shelbyville, dans le Tennessee, les hommes de Forrest font irruption au domicile de John Dunlap, principal de la First Colored School, et lui infligent un véritable supplice. La victime raconte l'incident dans sa déposition. Il y en avait à peu près 50 à cheval et armés de pistolets. Ils étaient tous masqués, leurs chevaux également. Ils ont tiré deux fois sur moi à travers la fenêtre. Ils ont ensuite forcé la porte d'entrée et m'ont traîné au dehors. À un signal donné au sifflet, ils se sont formés en demi-cercle, m'ont mis debout au milieu de la route et m'ont fait baisser mon pantalon. Puis ils ont retroussé ma chemise au-dessus de ma tête et l'ont attachée. Alors, sauf fuite d'entre eux, ils m'ont donné chacun 5 coups de fouet. Toujours le même chantage. Leur chef m'a dit qu'il ne me ferait plus fouetter si je quittais l'État. Devant cette impérieuse sommation, Dunlap plie bagage. D'autres tentent de résister. En novembre 1868, dans le comté de Warrenton, en Géorgie, le vieux Perry Jeffers défend son foyer avec acharnement. Cet ancien esclave qui a réussi à accumuler quelques pécules en tant que métayer riposte si bien qu'il tue l'un de ses agresseurs et en blesse trois autres. Mais ses jours sont comptés. Alors qu'il cherche à fuir, lui et quatre de ses fils payeront de leur vie ce barreau d'honneur. La violence exercée par le Ku Klux Klan atteint son paroxysme au cours de l'année 1868. En mars, des hommes cagoulés brûlent le tribunal du comte de Greene dans l'Alabama. Le 4 juillet, environ 400 cavaliers lourdement armés paradent dans les rues de Pulaski pour afficher leur force et terroriser les Noirs. La même nuit, une bande de taille équivalente prend le contrôle de la petite ville de Jefferson, au Texas, et disperse à coups de fusil un meeting du Parti républicain. Le 15 août, dans le comté de Wayne, au Tennessee, 60 individus encagoulés mettent en déroute une unité de miliciens noirs. Un raid a lieu le 19 septembre à Camilla en Géorgie, faisant 9 morts et 40 blessés parmi la population de couleur. Un mois plus tard, le 4 octobre, 5 fonctionnaires du bureau des affranchis, dont 2 officiers de l'armée, tombent dans une embuscade près de Rocky Comfort dans l'Arkansas. Le pire reste encore à venir. À l'approche des élections présidentielles, des centaines de lynchages sont commis en Louisiane, où le clan s'est allié avec les chevaliers du Camélia Blanc. Le bilan est effrayant. En 4 semaines, les autorités de l'État leur attribuent 1081 homicides, 135 blessures par balle et 507 autres agressions. Bien qu'elles soient plus difficiles à évaluer, les destructions matérielles sont importantes à l'échelle du Sud. Des dizaines de tribunaux, de bureaux de vote, d'écoles, d'églises, d'orphelinats noirs disparaissent en fumée. Le 5 novembre, près de la gare de Greenville en Floride, des membres de l'organisation interceptent un train et détruisent une importante cargaison d'armes. En décembre, la ville de Leavittsburg dans l'Arkansas est ravagée à la suite d'un incendie allumé dans les entrepôts de marchands républicains. Somme toute, s'il ne s'agit pas d'une guerre conventionnelle, le Sud est bien le théâtre d'une lutte larvée. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, c'était pour bien expliquer ce que c'était que le Ku Klux Klan. Et là, on est dans les années 1870. Mais il faut savoir qu'après, ça va continuer et que ça continue encore de nos jours. Lorsque des gens sont massacrés à la sortie d'une église protestante pentecôtiste où il y a en majorité des gens de couleur, c'est là aussi, là aussi, c'est le Ku Klux Klan qui sévit quelque part dans le monde. Lorsqu'il y a des choses, lorsqu'il y a par exemple des guerres qui sont provoquées pour permettre aux États-Unis de maintenir une certaine hégémonie dans certains endroits du monde, c'est là aussi quelque part le Ku Klux Klan qui agit. Et lorsque certains hommes politiques américains ou français propage des paroles raciales, racistes, et bien là aussi, c'est encore le Ku Klux Klan qui est présent. En d'autres termes, quelque part, aussi, lorsqu'il y a des guerres entre deux peuples qui normalement devraient être amis et frères, et s'entendre entre eux pour former un seul et même État, qui, au lieu de faire la guerre, s'occupe de son économie et fait en sorte d'atteindre une certaine abondance, là aussi, eh bien, c'est aussi le Ku Klux Klan qui agit. Donc voilà, je vais passer une petite chanson, une chanson qui va de soi, puisque en fait, ces populations noires qui étaient aux États-Unis à l'époque et qui se sont fait massacrer dans le Sud, parce qu'on n'était pas content qu'elles ne soient plus mises en esclavage et qu'elles jouissent pleinement de leurs droits civiques, ils n'avaient rien demandé, leurs ancêtres n'avaient rien demandé, puisqu'on les a tout simplement cueillis en Afrique pour les faire partir en Europe, puis ensuite aux États-Unis par bateau, et qu'on les a réduits en esclavage. Donc je vais passer une chanson que tout le monde connaît, qui est une chanson de Bob Marley, qui s'appelle Buffalo Soldier. America, stolen from my Voilà. Bob Marley a fait cette chanson qui parle de ces gens qui sont nés en Afrique et qui ont été amenés aux États-Unis et qui ont été mis en esclavage. C'est ce qu'on appelle le commerce triangulaire, où les populations auxquelles les populations blanches d'Europe ont largement participé. D'ailleurs, ce sont elles, je le rappelle, bien que tout le monde le sache, que ce sont elles qui ont découvert l'Amérique, et que donc ces Américains, ces populations blanches d'Amérique, au départ, sont des populations européennes. Et donc forcément, qu'il y a le phénomène du Ku Klux Klan n'est pas un phénomène américain proprement parlé, puisque l'Amérique, ce n'est pas que des populations blanches, c'est aussi des populations indiennes, comme d'ailleurs le montre un film qui est en train de sortir. Ce film s'appelle, je vais vous donner tout de suite ce nom, c'est le dernier film de Martin Scorsese, avec Robert De Niro bien entendu Leonardo DiCaprio. C'est un film qui a été fait uniquement pour pouvoir évoquer cette Amérique du passé qui était peuplée d'Indiens, les premiers habitants de l'Amérique du territoire américain, et qui a été elle aussi massacrée par les Blancs qui sont arrivés à l'époque de la découverte de l'Amérique. Et le film s'appelle Killers of the Flower Moon. Killers of the Flower Moon. Il a été sélectionné au Festival de Cannes. C'est du Scorsese, donc je pense forcément que ça doit être bien. Ça se passe en Oklahoma dans les années 20. Une vague de meurtres secoue la communauté des Indiens, Osage devenue riche grâce au pétrole, sur fond de tensions raciales. Leur richesse attise la convoitise de Blancs peu recommandable. Donc je pense que ce doit être un film à voir. Je ne l'ai pas encore vu, mais je pense que je vais certainement y aller. Ce que je voulais dire, c'est que en fait, le Ku Klux Klan, c'est un phénomène qui nous concerne tous. C'est un phénomène qui concerne aussi les populations européennes avant tout. Et donc ce phénomène de racisme très fort et de conviction profonde que Dieu aurait donné à la race blanche une suprématie sur les autres races et que c'est elle qui devrait commander dans le monde, ce n'est pas quelque chose de nouveau et ça vient de chez nous. Alors j'ai essayé de faire une petite enquête pour essayer de déterminer d'où ça venait et d'où c'était le plus fort. Il me semble que c'est une conviction qui est quelque peu générale dans le monde tribal d'avant la période gallo-romaine, c'est-à-dire que ces populations d'Europe, les Gaulois chez nous, ainsi que toutes les autres tribus, hein, à l'époque on fonctionnait sous forme de tribus, avant la guerre des Gaules, parce qu'après il y a eu la guerre des Gaules, donc Jules César a modifié l'ordre social, mais avant la guerre des Gaules, il y avait plusieurs tribus, et je pense que le propre de la tribu, c'est d'être enfermée sur elle-même et de se méfier de l'étranger. Et le propre de la tribu, c'est aussi souvent de faire la guerre de faire la guerre contre les autres tribus et pour se protéger ou pour s'enrichir. Donc on fait la guerre contre une autre tribu, on massacre tout le monde pour prendre des richesses de la tribu suivante, de l'autre tribu, ou alors on se défend contre une tribu qui veut nous attaquer. Le fonctionnement tribal, c'est le fonctionnement qui est la norme, qui a été la norme dans le passé, dans beaucoup de régions. Et ce n'est pas propre à une ethnie ou à une culture particulière. On la trouve aussi en Arabie Saoudite au Moyen-Orient. Et d'ailleurs, s'il y a eu Mohammed qui s'est reposé sur le Coran qui lui aurait été dicté pour fonder la ville de Médine, c'est pour mettre de l'ordre dans ce paysage géographique complètement désordonné à cause des tribus des tribus arabes qui se faisaient toute la guerre les unes contre les autres. Donc voilà, c'était pour remettre les choses en place et ensuite pour dire que peut-être qu'en Europe centrale, et il y avait des tribus qui est, certaines tribus qui étaient peut-être plus virulentes que d'autres, ou peut-être que certaines ont vécu des traumatismes. Je pense notamment à la région de Saxe en Allemagne. Donc c'est une région qui est connue parce qu'il y a les Saxe-Cobourg ont été une famille très importante qui a beaucoup fait parler d'elle dans les grandes cours aristocratiques européennes du XVIIIe siècle, et même d'avant ou d'après. Et en fait, dans cette région du monde, avant la guerre des Gaules, je pense qu'il a dû y avoir une ou plusieurs tribus qui un jour ont été traumatisées parce qu'ils ont tous été massacrés par une autre, que ça a créé un traumatisme dans leur inconscient collectif. Et ce sont ces gens-là qui sont ensuite allés peupler le Royaume-Uni. Ils ont envahi les terres de l'actuel Royaume-Uni, de l'Angleterre actuelle, et où habitait déjà d'autres tribus, notamment une tribu qui s'appelait les Angles. Et ça a donné les Anglo-Saxons. Et ces Anglo-Saxons ont maintenant, dans leur inconscient collectif, cette terreur de l'étranger, de ce qui est différent, qui remonte à très loin. Et donc, c'est ce qui expliquerait qu'après, ces Anglo-Saxons soient partis aux États-Unis et que les États-Unis ont déjà été profondément touchés par le massacre des populations indiennes, par la haine des populations blanches européennes qui les ont massacrées, est devenue encore plus dure en ce qui concerne ces populations blanches, avec l'arrivée puis la suprématie des Anglo-Saxons. Et c'est devenu la norme. Après, ça s'est encore davantage aggravé par le commerce triangulaire et l'esclavage. Et je pense que c'est pour ça que ces gens-là, c'est ce qui explique, à mon avis, qu'il y ait autant de cruauté dans le monde. Et cette cruauté, elle est encore là aujourd'hui, elle se mondialise. Et d'ailleurs, il y a par exemple une rue aux États-Unis qui s'appelle Wall Street à New York. Et cette rue, faut voir, cette ville New York est une des plus belles villes du monde. Elle porte un nom qui est extraordinaire, New York. C'est-à-dire, faut essayer de comprendre ce que ressentaient les populations blanches qui ont créé cette ville, qui sont à l'origine de la fondation de la ville de New York. C'est-à-dire, on voulait être dans un nouveau monde, et c'était une ville qui focalisait tous les espoirs. C'était la nouvelle ville. Et cette nouvelle ville, bien entendu, c'était la ville de l'espoir pour ces Blancs qui étaient partis du continent européen parce qu'ils n'arrivaient pas à s'en sortir et parce qu'ils étaient en Europe, ils étaient pauvres ou parce qu'ils étaient, ils n'arrivaient pas à être importants ou parce qu'ils n'avaient pas réussi à gagner beaucoup, à bien gagner leur vie. Parce qu'il faut savoir que En Europe, avec les différentes révolutions industrielles, on sait ce qui s'est passé en Angleterre et en France, et à quel point, Émile Zola a d'ailleurs bien montré, les gens qui ne faisaient pas partie des classes sociales les plus dynamiques et les plus élevées en bavaient à l'époque de l'industrialisation. Et donc tous ces gens-là ont focalisé leur espoir sur une nouvelle ville qui était la ville de New York. Et de cette baie, en même temps, en traînant avec eux toute cette haine et cette peur de l'étranger qui remontait qui appartenait à un inconscient collectif puissant remontant à plusieurs siècles. Et à Wall Street, c'est une rue qui aujourd'hui, c'est très amusant parce que c'est la rue où... C'est la rue où se font tous les grands placements boursiers, où tous les grands échanges boursiers. Et donc c'est la rue de la domination quelque part, puisque on sait bien à quel point les échanges financiers et immatériels ont supplanté les échanges matériels à proprement parler en économie, et à quel point ils ont créé des troubles avec des crises spéculatives et des crises financières très importantes. La dernière très grande crise est remontant à 2008, c'est la fameuse crise des subprimes. Et en même temps, c'est marrant parce que cette rue-là, c'est aussi la rue où il y avait le marché aux esclaves dans les années au XVIIIe siècle. et au 17e. C'est-à-dire que c'était une rue, il y avait un côté pour les blancs et un côté pour les noirs. Et lorsque les ventes se déclenchaient, les blancs passaient de l'autre côté pour aller voir, pour aller regarder quels esclaves ils allaient acheter. Donc voilà, c'est très symbolique et ça fout des frissons dans le dos, puisque en fait on se rend compte que avec que Wall Street focalise et représente très bien cette domination qui sévit actuellement dans le monde et qui fait que on ne peut pas développer les économies de tous les pays, et que même dans les économies des pays développés, ça se passe pas toujours bien parce qu'il n'y a pas un partage équitable. Voilà. Donc c'était mon petit aparté. J'aurais voulu parler de certaines personnes qui sont renommées aux États-Unis parce que elles aussi, elles ont focalisé des espoirs et elles ont lutté pour la reconnaissance des droits des populations de couleur. On va citer au moins les noms, puisqu'on n'a pas le temps aujourd'hui de parler, de rester plus longtemps dessus, mais je vais bien faire une autre émission où j'en parlerai un petit peu plus. Tout simplement, on peut parler de Martin Luther King. Tout le monde le connaît, tout le monde sait qui c'est. On sait qu'il a créé des précédents. Grâce à lui, ça se passe un petit peu mieux, même si c'est pas toujours la panacée. Donc celui-ci est né à Atlanta, en Géorgie, en 1929, et il est mort assassiné en 1968 à Memphis. Voilà. Il était très influencé par le Mahatma Gandhi, Abraham Lincoln. Il était pasteur, et c'est une légende de lutte pour les droits civiques. Et c'est lui qui a mené le Civil Rights Movement dans les années 50, un mouvement de lutte contre la ségrégation aux États-Unis au moyen de manifestations pacifistes. On voit bien quand même, quand on lit le livre de Farid Hammer, dont je vous ai lu quelques parties, mais c'est que le début, on voit bien que à quel point c'est le Ku Klux Klan qui aujourd'hui encore a beaucoup de poids dans le monde, a remis en question l'émancipation des populations de couleur et l'égalité des droits entre les individus. La phrase la plus célèbre de Martin Luther King, c'est « Croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. » Voilà. Donc c'est lui qui est l'auteur du célèbre discours « I have a dream », qu'il avait prononcé en novembre 1860... « I have a dream » qu'il a prononcé lors d'un discours où il rend hommage à un autre discours, le discours de Gettysburg, prononcé par Abraham Lincoln en novembre 1863, lors du centenaire de la proclamation d'émancipation. Voilà. Ensuite, on en a une autre personne qui est Malcolm X. Malcolm X est également connu sous le nom de El Hadj Malek El Shabazz, est né en 1925 à Omaha et il est mort assassiné le 21 février 1965 à Harlem. Il était un orateur, prédicateur et porte-parole du groupe Nation of Islam. C'était un militant politique et défenseur des droits de l'homme afro-américain. Donc c'est l'une des quatre grandes icônes des mouvements afro-américains. Pour abolir la discrimination raciale aux États-Unis, et donc avec Rosa Parks, enfin il y en a beaucoup d'autres. J'ai dit qu'il y en avait que quatre, mais ils sont très nombreux quand même. Ce qui a rendu célèbre Malcolm X, c'est que c'est quelqu'un qui n'a cessé de lutter pour la reconnaissance des droits civiques des populations de couleur. Dans la période qui va de 1954 à 1965. Et il faut savoir que dans certains États fédérés, depuis 1979, Malcolm X Day est un jour férié, le 19 mai. Donc bien sûr, il faut citer aussi Rosa Parks, Daisy Bates, et également... voilà. lors du festival War on Screen, qui est un festival contre la guerre, il y a eu plusieurs films qui sont passés parce qu'il y avait un thème qui était consacré justement à ces sujets-là, avec plusieurs films, je vous les cite si vous avez envie de les voir. Black Landsman, J'ai infiltré le Ku Klux Klan, un film de Spike Lee, où on voit Ron Stallworth, un policier afro-américain du Colorado, infiltrer le Ku Klux Klan. Et il finira par en devenir le chef. Dans La chaleur de la nuit, de Norman Jewison, où on voit Virgil Tibbs, un officier de police noire du nord des États-Unis, en visite dans une petite ville du sud, où la plupart des habitants sont racistes. Glory, un film de Edward Zwick de 1989, c'est un film américain sur la guerre de sécession. Robert Gulcho dirige une compagnie de volontaires entièrement composée de noirs alors que lui il est blanc. Et il lutte à la fois contre les préjugés de son camp, l'Union Army et le camp des Confédérés. I'm Not Your Negro de Raoul Peck, un film qui est franco-belge mais aussi américain. À partir des écrits de l'écrivain noir américain James Baldwin sur trois personnages ayant marqué à jamais le paysage social et politique américain, Raoul Peck explore les luttes des Afro-Américains au cours de ces dernières décennies. Summer of Soul, La révolution n'a pas pu être, un documentaire sur le légendaire festival culturel de Harlem de 1969. Mississippi Burning, un film de Alan Parker, où on voit deux agents du FBI enquêtant sur le meurtre des militants des droits civiques et cherchant à briser la loi du silence dans une petite ville du Sud où la ségrégation divise les Noirs et les Blancs. Et enfin, je garde le meilleur pour la fin, le film Lincoln, un film de Steven Spielberg, où on voit les derniers mois tumultueux du mandat du 16e président des États-Unis. À mesure que la guerre continue à faire rage, le président américain se bat contre un grand nombre de personnes, dont son propre cabinet, sur la décision d'émanciper les esclaves. Voilà. Je pense que j'ai dû oublier des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont lutté contre la suprématie blanche en Amérique à cette époque-là. Je ne les ai pas tous cités et je leur demande pardon parce que je sais que c'est pas bien d'oublier des gens. Mais on a quand même pas mal éclairci la question et je serai contente la prochaine fois de faire plus précisément une émission spécifique concernant justement cette cause et les batailles qui se sont engagées contre justement ce problème qui sévit partout dans le monde et qui empêche qu'on évolue tous ensemble et qui concerne tout le monde, hein, quelle que soit la couleur de chacun, bien entendu. Je vous souhaite, chers auditeurs, de passer une très très bonne fin de journée et puis une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.